Au-delà du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, faut-il interdire le tourisme ? Une question radicale qui mérite évidemment une réponse nuancée, car cet été, des millions de personnes vont se déplacer pour aller explorer leur pays ou d'autres contrées. Pour le meilleur, un emploi sur 10 dans le monde dépend du tourisme, mais aussi pour le pire, le tourisme de masse qui ravage tout sur son passage. Tout le monde ne voyage pas, bien sûr, mais le 1,5 milliard de personnes qui ont accès à ce luxe ne vont globalement que dans une vingtaine de pays, avec des circuits identiques qui asphyxie la population locale et son environnement. Les écosystèmes côtiers sont particulièrement touchés, on va en parler avec un expert. Nous vous emmènerons dans un site qui souffre, la baie d'Along au Vietnam, et nous vous proposerons une solution avec son inventeur, l'application Fairtrip.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Jérémy Fosse.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'ONG EcoUnion et vous êtes en ligne avec nous depuis Barcelone. Vous venez de publier en partenariat avec l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, un rapport sur le tourisme bleu, c'est-à-dire le tourisme dans les régions côtières, hein, ce tourisme qui fait rêver, on s'imagine à la plage, au bord de l'eau, faire du bateau pour ceux qui ont le plus de moyens ou juste aller nager un petit peu. Alors pourquoi est-ce que vous avez eu envie de faire ce rapport ?
Nous, on travaille depuis de nombreuses années sur l'impact environnemental de l'économie dans notre écosystème naturel et notamment en Méditerranée. Et on s'aperçoit qu'une des premières sources de pollution vient des activités qui ont lieu sur la plage, donc le tourisme côtier maritime. On a souhaité comprendre un peu mieux les différents impacts de ce tourisme-là et proposer des solutions pour essayer de limiter la production de pollution dans l'air et dans l'eau.
Et pourtant, vous êtes en ligne avec nous depuis un pays très pollué par le tourisme, c'est l'Espagne.
Oui, on est basé effectivement en Espagne et je crois que le regard qu'on peut porter depuis la France ou l'Espagne, qui sont les pays principaux dans la réception de tourisme au niveau mondial, font qu'on se rend compte de l'impact négatif hein, au niveau environnemental, mais aussi parfois au niveau social, qu'a le tourisme sur nos côtes.
Alors pour comprendre l'ampleur de l'impact du tourisme, il faut rappeler que c'est, je le disais, hein, tout le monde ne voyage pas, mais c'est quand même de plus en plus de monde à une vitesse impressionnante, hein, ça se développe très très vite.
Voilà, effectivement, ça reste un produit de luxe. Hein, ce sont les classes moyennes des pays occidentaux qui peuvent se permettre de prendre l'avion ou le train pour passer quelques jours de vacances. Mais l'impact est très, très élevé, autant pendant le transport, notamment via le transport aérien, mais aussi lors du séjour sur la côte, sur lequel, évidemment, en vacances, les comportements des touristes ne sont parfois pas du tout adaptés à la fragilité des écosystèmes locaux.
Alors, vous parliez de l'avion. Bon, votre rapport ne porte pas là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a un débat qui commence à émerger en Europe. Hein. Faut-il ou non prendre l'avion ? Ça, il y a beaucoup d'articles sur ce sujet, beaucoup de débats actuellement.
Effectivement, il faut savoir que l'empreinte carbone du tourisme vient principalement de l'aviation. Ça peut arriver jusqu'à 95% dans certaines villes comme Barcelone, puisqu'effectivement, les transports en avion se sont démultipliés grâce ou à cause des compagnies à bas coût.
Alors si on revient plus particulièrement à votre sujet d'étude, le tourisme bleu, le tourisme côtier, quelles sont les zones du monde les plus impactées aujourd'hui ?
En fait, on a comparé, on a regardé les deux grandes zones sur lesquelles le tourisme a été le plus, historiquement le plus développé, que sont la Méditerranée et les Caraïbes. Et qui non seulement sont impactés par le tourisme traditionnel de plages et des hôtels au bord de la mer, mais aussi par la montée du croisiérisme qui accélère encore plus les pressions qui sont portées sur les écosystèmes et qui sont des villes flottantes. Hein. Il faut savoir qu'un bateau de croisière peut accueillir jusqu'à 5 000, 6 000, voire 8 000 personnes et se déplacer pendant des dizaines de jours sur différents pays de manière consécutive.
Avec donc des ports qui s'adaptent à la dimension de plus en plus géante de ces bateaux, des milliers de touristes, comme vous le disiez, qui débarquent dans les villes. Bon, tout ça a un impact considérable, forcément. Alors, pour comprendre l'impact du tourisme et les alternatives possibles, parce qu'il y en a, là, on fait un tableau noir, mais on peut quand même voyager sans trop impacter l'environnement, je vous propose d'aller dans un site très connu et donc très fréquenté, la baie d'Along, au Vietnam. C'est l'un des paysages les plus célèbres d'Asie, la baie d'Along compte environ 2000 pains de sucre de toutes formes et de toutes tailles qui émergent de la mer et s'étendent sur des centaines de kilomètres. Classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1993, sous le critère de beauté naturelle, le site attire en moyenne 5000 touristes par jour à bord de 450 bateaux. En 2018, 6 millions de personnes l'ont sillonné et le nouvel aéroport international à quelques kilomètres du site va faire exploser ces chiffres. Julien Trembouze est allé constater l'impact de cette fréquentation.
Je viens d'arriver à Long City, ville qui a pris des proportions absolument gigantesques ces dernières années. Hôtel de 20 étages dans tous les sens. Il y a deux parcs d'attractions qui ont été créés sur la façade, le sort de littoral devant la baie d'Along. Un téléphérique. Bon, je vous cache pas que je m'attendais un petit peu à autre chose que ça. Hein. Les choses vont dans une autre direction visiblement ici. Voici un petit peu de l'ambiance sonore ici à Tuan Chau. C'est l'embarcadère pour entrer dans la baie d'Along. Centaines littéralement de bus un petit peu de partout. Des centaines aussi de bateaux de croisière. Et des touristes du monde entier. Et on va aller justement rencontrer un couple de touristes du Québec. Qu'est-ce que vous attendez de ces quelques jours que vous allez passer dans la baie d'Along? Qu'est-ce que vous avez imaginé en tête là? Vous allez embarquer sur un bateau?
Bon, les paysages, c'est sûr, les paysages, les montagnes très, très pointues en aiguille qui, sur les images, nous fascinent beaucoup, que j'ai hâte de voir ça. D'aller aussi probablement des lagunes, dans des grottes, explorer. C'est toujours le fun à avancer tranquillement mettons, des lagunes où est-ce qu'on peut observer, puis prendre le temps de regarder des choses, pas passer...
Vous savez qu'en moyenne, il y a entre 5 et 15 000 personnes par jour qui visitent cet endroit. Vous n'êtes pas les seuls, hein?
OK.
Ça vous fait pas peur, ça?
On en a entendu parler, puis on s'est fait dire, oui, qu'il y a des endroits qui sont très touristiques. Nonobstant qu'il y ait des touristes ou non, le but, c'est de voir des paysages. Puis jusqu'à présent, ce qu'on voit ici, c'est déjà impressionnant, là, les montagnes.
On voit que le Vietnam change. On nous l'explique aussi. Il y a 10 ans, c'était différent. Il y a 20 ans, c'est différent. Dans 10 ans, ça va être probablement très différent aussi. On voit qu'il y a beaucoup de constructions, des choses qui se modifient. En espérant qu'ils réussissent à maintenir ce côté pittoresque-là le plus possible.
Vous travaillez dans une raffinerie, c'est ça?
Oui, on travaille tous les deux dans une raffinerie à Montréal, de pétrole.
On s'est baladé sur les quais tout à l'heure, on voyait beaucoup, beaucoup de bateaux. On sait qu'on va embarquer sur ce bateau-là, un bateau.
Une sorte de petit bateau de croisière.
Ouais,
gros
moyen gros. Moyen bateau de croisière. On voit qu'il y en a quand même plusieurs. Puis, je me suis quand même posé la question... par rapport à la pollution de la baie d'Along, qu'on sait qu'elle est très grande, mais malgré tout, il y a sûrement un impact sur l'eau. Alors, on se posait la question. On n'a pas la réponse. C'est sûr qu'il y a un impact, mais on ne sait pas quel impact on a exactement.
Je viens vous chercher quand vous sortez du bateau, demain.
Ah,
okay. On fait ça?
Ah,
et on fait le bilan.
Parfait. On fait un bilan. Excellent.
Un devoir pour la journée. Excellent.
On va prendre des notes.
Bon, amusez-vous bien, alors.
Merci. C'est bon. Merci beaucoup.
Il y a un groupe de touristes qui vient d'arriver.
Florida. Yes.
Hello. Hello.
No red tide.
Vous venez d'arriver?
C'est dommage parce que la baie, il y a beaucoup de déchets, des choses comme ça, mais c'est super beau.
Vous avez vu quoi dans l'eau?
Ben, des déchets. J'ai pas vu de poisson, mais on a vu quelques déchets, oui. Alors ça, c'est dommage. Mais bon, somme toute, quand on lève les yeux de l'eau puis on regarde les montagnes, c'est magnifique. Mais si dans quelques années, ils ne changent pas les choses, ben je ne sais pas ce qu'on verra dans l'eau.
Il y a beaucoup de gens qui sont un peu déçus quand même quand ils arrivent ici. Beaucoup de construction, beaucoup d'urbanisation. Beaucoup de déchets dans l'eau, vous l'avez constaté
oui,
aussi ou pas?
Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment remarquable. Puis c'est dommage là, parce qu'on se dit que ça se détériore, ça va se détériorer vite. Là.
Faudrait qu'ils pensent... Les génératrices roulent toute la nuit là, sur les bateaux. Là. C'est inutile. Là, si il y avait des batteries, on pourrait charger les batteries et maintenir un minimum d'électricité. Pas besoin d'avoir des génératrices qui roulent pendant 12 heures, 10 heures de temps. Là.
Donc pendant toute la nuit que vous étiez sur votre bateau, en fait, le moteur tournait pour alimenter en électricité?
C'est une génératrice qui maintient l'électricité, mais ça c'est sûr que côté environnemental, ils ont un progrès important à faire, là, parce qu'il y a peut-être quoi, 500, 1000 bateaux ici, là. Fait que le diesel, ça sera évité, première des choses. C'est mieux les bateaux à essence que diesel, premièrement.
Vous avez trouvé l'eau qui était de mauvaise qualité ou pas? Vous avez eu envie de vous baigner, peut-être?
Ben, on ne s'est pas baigné. On était maintenant à une île, mais moi, j'ai préféré grimper la montagne que de me baigner.
C'est pas évitant, l'eau.
On vit au Québec, nous. Hein? Fait que l'eau, elle est limpide. Fait que dans les lacs, fait qu'on est...
Vous êtes un peu sensible, c'est ça?
Oui, mais écoutez, moi, ce que je pense, c'est que l'industrie du tourisme vietnamienne devrait... Ils ont un trésor ici. Là. Il va falloir qu'ils fassent quelque chose pour le conserver. C'est magnifique, mais on se disait chaque touriste devrait avoir une perche pour être capable de ramasser des déchets. Il y a quelque chose qui doit être fait, là, parce que dans quelques années, même l'eau, ils nous ont amené à une plage. Bien, on ne s'est pas baigné parce que c'était pas invitant. L'eau n'était pas propre. Donc, t'imagines ça. Et puis, ça fait des années que tu caresses... Le rêve de venir voir cet endroit-là, puis ça, ben, ça vient un peu jeter un peu d'ombre là, sur la réalité de la carte postale, disons. Hein? Ouais.
Bon, il faut zigzaguer entre les bus, hein?
Ouais, ouais, ou entre les scooters, c'est un des deux ici, hein, c'est...
Kilomètres de l'embarcadère des touristes qui vont aller se balader dans la baie d'Along. C'est le port de pêche. Je vais essayer de monter dans un bateau, prendre le large, essayer de rencontrer un petit peu les habitants justement de cette baie, leur quotidien. Ah, c'est un peu la fin de la journée ici pour les pêcheurs. Il y a à mes côtés une famille de pêcheurs et Wang qui revient justement de la pêche avec une minuscule petite barque en bois, pas de moteur, hein, c'est des rames, quelques crustacés, des coquillages, des crevettes. On lui demandait justement si la pêche a été bonne. Bon, ça c'est la pêche du jour visiblement. Qu'est-ce qu'on a là? Des crevettes, des petits crabes, des coquillages. Ciao. Et bien, pourquoi vous n'avez pas le droit de pêcher ici?
C'est interdit. Les autorités qui travaillent dans l'environnement viennent nous en empêcher. Ils ont dit que la baie est réservée aux touristes. On n'a plus le droit de pêcher ici, dans la baie d'Along. Si on pêche, on risque une amende de 110 à 150 euros. En plus, on peut se faire confisquer notre bateau.
En fait, si je comprends bien, le bord du littoral de la baie d'Along est réservé aux touristes et les locaux, ils doivent aller de plus en plus loin pour pêcher. Donc vous êtes un peu chassé par les touristes, en fait.
Ils disent qu'il faut laisser la place pour le tourisme. Il est interdit de pêcher depuis notre port de Hong Hai jusqu'à la frontière chinoise à l'est. Ça nous rend la vie très difficile. On doit pêcher en cachette. Regardez derrière vous, les hommes en uniforme, ce sont eux qui viennent nous empêcher de travailler.
Est-ce que vous trouvez que la baie d'Along a changé? Est-ce qu'elle est plus sale? Est-ce qu'elle est plus polluée qu'avant?
L'été dernier, la pêche a été interdite pour d'autres raisons. Il y avait de l'eau jaunâtre polluée qui sortait du port industriel de Cai Lan, le grand port de la baie. Quand je pêchais, les poissons étaient déjà morts en mer. On n'a pas osé le dire car on n'avait pas le droit d'être là. Ils étaient tous morts, les crevettes, les poissons, même les petites palourdes vivant dans la vase. C'était horrible. C'était au mois de juillet l'année dernière. Il y avait beaucoup de pollution. Quand on voit l'eau jaune sur la mer, ça fait vraiment peur.
C'est quoi cette coulée jaune? Ça vient d'où, vous savez?
Ça vient du port Kailan. Dans le port Kailan, on raffine du pétrole et les eaux usées sortent par un tuyau directement dans la mer. Maintenant, on ne la voit plus. Là, ça m'a dégoûté. Quand l'eau était toute jaune, je me souviens, je pêchais des crabes. Ils étaient déjà morts et sentaient tellement mauvais, c'était insupportable. Je n'ai pas pu les vendre car les gens ont dit que les crabes n'étaient pas comestibles.
Come on. Ah, vous entendez un coq au loin, mais on est bien au marché aux poissons et aux crustacés. J'ai discuté avec pas mal de vendeurs sur ce marché. On parlait un petit peu qualité, quantité, et les deux ont extrêmement baissé ces 20 dernières années. On parle d'une diminution ici de 50% en fait de la quantité intrinsèque là des produits halieutiques. La taille aussi, surtout des fruits de mer, a été divisée par deux. Et on va de plus en plus loin en fait pour aller récolter le poisson, les crustacés, de plus en plus au large, parce que concrètement dans la baie d'Along, entre les bateaux de croisière et tout le trafic, les fonds sous-marins sont bien vidés. On parle même dans une certaine zone de pollution aux huîtres, dans la région de Kamfa. C'est une région où en fait les huîtres sont élevées justement à la sortie d'une mine de charbon. Donc avis aux amateurs. Alors, ce que vous entendez, c'est vraiment l'ambiance sonore et très sonore de cette baie d'Along, parce qu'on construit dans tous les sens, parc d'attractions, immeubles, autoroutes, pistes d'atterrissage pour avions, centres commerciaux. Là, je me trouve justement donc dans un port de pêche qui accède à cette baie. À peu près 300-400 bateaux autour de moi. On est en train de construire un embarcadère là, juste à côté. Je vais essayer de rentrer justement dans un bateau et aller prendre le large et aller voir un petit peu plus près justement cette baie avec les pêcheurs. Sur un bateau, on va pouvoir commencer notre petite promenade au bruit du tuk 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 diesel de... Ah, ça se calme. Alors, c'est quand même assez étrange, c'est la proximité en fait de la baie par rapport à la ville. La baie littéralement avec ses fameuses images de cartes postales, elle est absolument à l'intérieur de la ville. Il y a le littoral, la route, les centres commerciaux, les musées, les marinas, les pêcheurs et la baie au milieu, les pitons, ces magnifiques pitons rocheux. Comment vous avez vu évoluer en fait cette baie d'Along? On parle de pollution dans la baie, est-ce que vous le constatez ou pas?
La pollution, vous savez, je ne suis pas une professionnelle de l'environnement, mais j'avoue qu'ici, dans la mer, il y a des gens qui n'ont pas de bonne conscience écologique. Vous voyez le filet de pêche là-bas? Il était retenu dans l'hélice de mon bateau. Je l'ai retiré et je l'ai gardé sur le pont. Je ne voulais pas le lancer dans la mer, car il aurait pu gêner encore d'autres bateaux. Je pense que si les gens faisaient un effort, la baie d'Along serait encore plus belle et plus propre. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Les touristes, les pêcheurs jettent des déchets dans la mer, comme des sacs plastiques ou la nourriture qu'ils ont mangée. Le fait qu'il y ait autant de restaurants, d'hôtels, de croisières a forcément un impact négatif sur la baie. Par mois, je reste en moyenne 28 jours en mer. Et je peux dire que les gens qui ramassent des déchets ne sont pas assez nombreux. Je ne sais pas si vous les avez croisés. Il y a seulement 3 petits bateaux qui collectent les ordures dans la baie. Donc il y a des gens qui jettent et des gens qui nettoient. Vous savez, ici, les habitants n'ont pas vraiment conscience qu'on a un problème. Je ne suis pas éduquée à l'environnement. Personne ne nous informe. Je sais juste que tous ces déchets, ce n'est pas terrible pour les gens comme moi qui travaillent dans la baie. Quand je pars en mer avec mes clients, je garde nos poubelles sur mon bateau. Et je les jette ensuite dans de grandes poubelles situées à l'embarcadère. Le filet, là, je le garde car je n'ai pas encore eu le temps de repasser au port.
Ouais, on va écouter la baie d'Along la nuit. C'est possible sans le moteur ? Allez, une minute, la baie d'Along sans le moteur. C'est bon, on y va ? Est-ce que vous avez pensé remplacer un jour le moteur gasoil diesel de votre bateau par peut-être un moteur électrique ?
En fait, personne n'est capable d'utiliser le moteur électrique ici. En général, nous avons des moteurs japonais, chinois ou thaïlandais. Et toutes ces machines marchent à l'essence. Je n'ai jamais vu de moteur électrique ici.
Je suis sûre que pour le moment, personne ne sait utiliser le moteur électrique correctement. Je ne sais pas si dans l'avenir, quelqu'un pourra en fabriquer pour nos bateaux. Que ce soit les petits moteurs comme sur mon bateau ou les gros pour les croisières, pour l'instant, ça fonctionne à l'essence.
Okay. Allez, c'est reparti pour le moteur. On y va. À bord de mon tracteur flottant dans la baie d'Along au milieu des pitons rocheux. Et si vous avez comme moi un peu cet imaginaire du film Indochine avec ces jonques qui passent dans le paysage brumeux, on est un petit peu loin de ça parce qu'il y a beaucoup et de plus en plus de bateaux de croisière qui sont justement dans cette baie d'Along, les plus grands bateaux de croisière que vous pouvez imaginer au monde. 500 mètres de long, 10 étages de haut. Ce qui est assez étrange, c'est les inscriptions en hologramme sur le bateau qui défile en immense, la taille de 5 immeubles, I love Along Bay. Fin de la balade, on arrive là ici au port. Bon, ça y est, vous êtes de retour.
De retour après 24 heures sur la baie d'Along.
Bon, montrez-moi comment vous avez l'air. Comment?
Impressionné, c'était très beau. La baie d'Along, les collines, les sorties qu'on a faites aussi, c'était vraiment très agréable.
Bon, il y a beaucoup de bateaux. C'est une atmosphère beaucoup plus touristique.
La baie d'Along, c'est quelque chose qu'il faut voir, mais c'est pas le style de voyage qu'on ferait.
Naturellement,
puis pour longtemps aussi. Là.
Vous avez vu des déchets flotter sur l'eau?
Ben, on en a vu un peu, oui. On en a vu, sur l'eau, il y en avait quelques-uns un peu. On a vu le bateau déverser probablement les cochonneries du bateau. On a vu aussi des flaques de diesel sur l'eau à certains endroits.
Vous étiez combien sur le bateau et il y avait combien de bateaux autour de vous hier soir?
Nous autres, on devait être à peu près une trentaine. Puis autour de nous, il devait avoir probablement quelque chose comme 70-80 bateaux, grosso modo. Il y avait des plus petits bateaux qui faisaient des croisières d'une journée, j'imagine. Donc, ils repartaient dans la soirée. Que dans la baie où est-ce qu'on est resté pour coucher, on devait être sur peut-être une quarantaine de bateaux.
Ouais. 40 bateaux? C'est énorme, quand même, non?
Oui, c'est énorme. Oui, c'est beaucoup.
Vous le referiez?
On referait pas le voyage, la croisière sur la baie d'Along. C'est pas quelque chose qu'on ferait. C'est un site naturel. Alors, une fois qu'on a vu, une fois qu'on a vécu ce moment-là, c'est fait. Le fait que du tourisme transforme le paysage, transforme un peu peut-être l'approche, la culture, la façon de vivre, un petit peu. Mais c'est ça, on voyage. Les gens voyagent de plus en plus. Ça, le côté négatif, c'est la transformation. Mais le côté positif, c'est l'ouverture sur le monde et la compréhension.
On a conscience qu'on pollue, mais on est aussi positif. On essaie toujours de voir les choses, le bon côté.
Alors, je ne vous cache pas que pour cette première visite de la baie d'Along, je suis resté un petit peu sur ma faim. Et j'ai rencontré justement sur le quai un groupe de touristes français qui vont visiter la baie plus au sud via l'île de Cadba. Et ils ont un guide sur place, Tuang Hong.
Oui, il dépose ici et après il va à l'embarcadère. Venir ici, il faut aller dans la baie de Lanha. C'est différent avec la baie d'Along qui est trop touristique. Maintenant, ici, ça attire les Européens, surtout les Français. Ils aiment bien le paysage naturel. Dans l'autre côté, à l'Along touristique, c'est beaucoup d'Asiatiques, des Chinois. Depuis 2 ans ici, Cadba, ça attire parce que ça reste encore naturel et il y a le confort suffisant. Mais ici maintenant, à Cadba, qui peut attirer les touristes de tous les rangs. Quoi.
C'est bientôt la fin de Cadba aussi.
Oui, comme je cherche le circuit hors de sentier battu, au début c'était la baie d'Along, le nord de la baie d'Along. Et Cadba, je suis là depuis 10 ans. Et j'ai peur que dans 5 ans, avec ce rythme de ce développement, que... Cadba, ça devient touristique aussi.
Bon, vos impressions?
C'est incroyable. Je suis en train de me dire que c'était un des paysages les plus beaux de ma vie que j'ai pu voir. Entre les déserts du Sahara et cet endroit, c'est magnifique.
Je pense qu'on a quand même la chance d'être dans un endroit qui est aussi un peu isolé. Enfin, on est régulièrement un peu seul au monde, non ?
J'allais dire, ça rend le moment encore plus unique, parce que ça serait une autoroute comme la baie d'Along qu'on entend beaucoup parler, ça serait pas le même charme. Non. Et là, on a l'impression que cet endroit est juste pour nous. Il y a un côté authentique qui est vraiment très appréciable.
Même en pleine saison ici, mais par fin d'automne, on choisit les parcours pour que tu rencontres personne. On fait toujours dans l'autre sens, on décale les horaires, on fait que éviter les foules. Donc là, normalement, les gens qui font le matin à 8h, le village Viet Thai. Moi, je fais dans l'après-midi, comme ça que ça évite les gens aussi. Parce que il faut dire que le tourisme qui arrive, le tourisme qui est responsable ou durable, ça aide beaucoup la vie des gens ici. Je vois que leur vie s'est vraiment améliorée. Par exemple, là, on voit là, le bateau navette qui va sur l'île. Donc, 2 fois par jour, ils ramènent des choses, ravitaillement, comme la marchandise et des personnes qui vont sur l'île. Sinon, avant, ils sont vraiment pauvres, ils n'ont rien. Et puis, s'il y a des maladies, s'ils sont malades, on n'a pas de moyens pour les ramener rapidement dans l'hôpital. Ah, oui. Ah voilà, on arrive sur le quai de Viet Thai. On va faire du vélo pendant 1 heure aller-retour, 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend de ce qu'on voit. Donc, vous êtes prêts là?
Allez,
il faut digérer le repas parce que le soir c'est barbecue. Ce des fruits de mer encore, oui.
Bon, ça y est, on est dans la baie d'Along. C'est pas mal, non?
C'est pas mal. Hein? Ah ouais, nous on adore.
La baie d'Along, autrefois, c'est l'image, c'est comme ça, hein? Avec des pêcheurs, avec des villages comme ça. Mais dans le côté Along touristique, on a peu, l'État qui a peur que ça pollue la baie. Donc, ils ont réduit le nombre, beaucoup.
Il y a 150 familles qui ont été complètement délogées.
Oui, oui. Parce qu'ils sont dans la zone protégée par l'UNESCO. Et puis, je ne sais pas si c'est exactement que c'est eux qui polluent beaucoup la baie ou comment, mais l'idée, c'est que pour réduire la pollution dans la baie d'Along, donc on les a construit les maisons sur terre et on leur donne d'autres travaux pour qu'ils continuent leur vie.
Bon, visiblement, il y a une petite fête là, quelque part, sur un bateau. Ah, il y a un karaoké, d'accord.
Oui, c'est le sport international des Vietnamiens. C'est le loisir qu'on aime bien. Et surtout qu'aujourd'hui, il fait froid, ils ne vont pas à la pêche, donc ils restent à faire la fête.
Bon, là, on est en train de traverser la jungle à bicyclette sur l'île de Cadba, sur une petite route cimentée.
Je crois que j'ai vu des poules d'eau qui ont traversé la route là. Je ne sais pas ce que c'est.
Oui, les poules d'eau. Avec les poules d'eau. Là, les petites, les écureuils aussi là. On a vu les écureuils. Donc, c'est le parc qui est protégé. Ce parc est bien protégé. Voilà, on traverse, on monte les collines.
Ah, là, ça grimpe.
Les orchidées aussi, il y a pas mal. Les orchidées dans le parc. On entend les oiseaux, les poundos.
Bon, puis c'est pas mal, on est à vélo, donc on prend notre temps.
On regarde pousser les plantes. Il faut vivre plus tranquille. On fait méditation en roulant à vélo. Hein. On pense à des boulevards à Hanoï, à Paris, à New York. Il y a trop de monde. Là, on n'est pas bien là.
En fait, si je comprends bien, il n'y a pas une baie d'Along, mais des baies d'Along. Et il y en a une qui est quand même un peu gâchée aujourd'hui par le tourisme.
Oui. En fait, la baie est très grande. Hein. Pour 24 heures, les gens qui voient qu'une partie. Donc, ce qu'on voit habituellement, c'est tous les touristes qui ont vu. Donc, du coup, il y a pas mal de trucs dans le développement de foule, de masse. Mais prenez votre temps et puis allez dans le coin qui est un peu reculé comme ça. Ça reste toujours la baie de rêve, comme avant. Moi, je suis sûre que. Les gens qui passent dans la côté de Katba ici, là, ils ont beaucoup aimé. Tous mes touristes qui viennent, qui reviennent, qui présentent les amis, parce qu'ils font la baie d'Along autrement. On va voir nos compagnons. Ça va tout le monde? On peut vous interviewer? Vous êtes bien là? Vas-y.
On est toujours dans le sud de cette baie d'Along et on va traverser le parc sur une petite route de campagne pour aller voir un village de pêcheurs.
Je vois bien le développement du village parce que je connais ce village depuis 98. On biết làng mình từ năm 98 ấy, đi cắt bà là lúc ấy có điện ấy. Et xong rồi dần dần ở đây á, il y a beaucoup de changements, c'est la vie est mieux. Ông có thấy vui không?
Vui chứ, vui lắm.
Il est très heureux, très content que ce soit développé comme ça. Passer par le chemin là pour eux, c'est cauchemar. Bây giờ mà cứ leo cái đường này thì có mà.
Maintenant, du lịch này.
Maintenant, ça devient le chemin touristique pour les gens qui aiment le trek dans la forêt, mais pas pour leur vie parce que c'est trop dur. Thế thì khỏe lắm gì nữa. Comme ça, ils sont costauds.
Vous me parlez d'une pièce à deux faces sur cette baie. Il y a la baie pour les touristes, puis il y a la baie pour les habitants en fait. Là, on vient de traverser une partie de la baie qui appartient aux gens d'ici.
Oui, là, tu crois pas des touristes. Donc, le tourisme, c'est avec les gens, avec la vie. Parce que moi je fais le circuit avec vous, j'organise et on fait naturellement. On voit les gens comme on rencontre quelqu'un de la famille. On voit la nature ici, c'est comme on rentre à la campagne, au village natal. Nous, on n'est pas là pour attendre le soleil et prendre les gens en photo comme ils sont dans le zoo, quoi. Moi, on partage la vie.
Reportage de Julien Trembouze réalisé par François Porcheron. Jérémy Fauss, je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Eco-Union qui vient de publier en partenariat avec l'IDRI un rapport sur le tourisme bleu, c'est-à-dire le tourisme dans les régions côtières. Comment est-ce que vous réagissez à ce reportage?
Le phénomène qui a été décrit sur cette baie au Vietnam est le même qu'on retrouve dans d'autres régions du monde, en Méditerranée, notamment sur la côte espagnole et certaines îles qui sont extrêmement fragiles et fragilisées par le tourisme de masse, mais aussi évidemment des pays dans les Caraïbes qui sont parfois peu adaptés à contrôler et à diminuer les pressions environnementales dans des pays qui sont souvent en voie de développement. Donc effectivement, cet exemple-là est répliqué dans d'autres régions du monde.
Alors ce que l'on entend dans le reportage aussi, c'est que finalement, à cause d'une mauvaise gestion, les Vietnamiens sont en train de tuer la poule aux œufs d'or. C'est-à-dire que ce qui fait la beauté de ce site, par exemple, c'est sa dimension naturelle. Mais si la nature est impactée par l'impact du tourisme, la beauté se dégrade.
Effectivement, le tourisme dépend de la qualité des écosystèmes, de la biodiversité présente, de la préservation de l'espace naturel. Et malheureusement, le tourisme de masse, notamment, entraîne des dégradations très fortes. Il construit sur des espaces qui devraient être protégés, il pollue les mers avec les déchets plastiques, et puis ils ont évidemment une empreinte carbone très élevée due aux déplacements et au transport aérien. Il faut savoir notamment que ces zones côtières sont les plus sensibles et les plus fragiles au changement climatique, parce qu'évidemment, quelques dizaines de centimètres de montée des eaux, notamment dans des pays qui ne sont pas adaptés, qui n'ont pas la capacité de se protéger, peut entraîner des conséquences très néfastes sur la population locale.
Oui, parce qu'il y a une pression sur les ressources naturelles qui est très forte. Il y a une demande supplémentaire en eau, en énergie, en nourriture, qui sont des ressources souvent rares, notamment dans les pays en voie de développement.
Voilà, et sur les zones côtières, effectivement, l'accès à l'énergie, l'accès à l'eau et même aux ressources de pêche et d'agriculture sont très limités. Et donc, en fait, le tourisme, quelque part, et le touriste vient déplacer la consommation et accaparer des ressources extrêmement limitées dans des pays, encore une fois, très fragiles et sur lesquels les politiques de régulation ou de gestion sont très faibles, voire inexistantes.
Alors, est-ce que vous avez des exemples ?
Eh bien, en fait, oui, ce que vous avez expliqué sur en Vietnam se retrouve dans d'autres régions, évidemment sur de nombreuses îles qui sont en ce moment le Cap-Vert. Le Cap-Vert vit un boom touristique et la grande angoisse que nous avons, nous, les écologistes, entre guillemets, c'est d'essayer d'éviter le modèle qui a été répliqué sur la Côte d'Azur, dans les Baléares, et aller plutôt vers un modèle beaucoup plus durable qu'on peut retrouver dans des pays comme le Costa Rica, qui sont sur un tourisme de plus grande qualité, plus faible en quantité, mais qui apporte une valeur ajoutée plus forte pour les communautés locales.
Oui, parce que les communautés locales, on l'entend aussi dans le reportage que nous avons fait au Vietnam, les communautés locales sont fortement impactées parce qu'elles-mêmes, du coup, se retrouvent quelquefois reléguées très très loin de la ville parce que dans la ville, tout est devenu trop cher, elles ne peuvent plus s'acheter à manger, elles n'ont plus accès au transport. Enfin, ça devient un enfer au quotidien, pour simplifier, même si ça crée des emplois.
Évidemment, on le voit tous les jours dans les saisons touristiques, dans des grandes villes européennes comme Venise, Barcelone et autres, sur lesquelles l'espace public est saturé par la présence de masses de touristes, sur des zones extrêmement concentrées qui en fait déplacent les habitants locaux, sur lesquelles aussi le coût de la vie devient plus élevé, qui doivent émigrer en périphérie parce qu'ils ne peuvent pas se payer évidemment de logement dans le centre-ville, mais aussi dans les pays du Sud, sur lesquels le mode de vie est transformé, une dépendance se crée avec le tourisme, qui est un produit extrêmement volatile. Les touristes se déplacent d'une zone à une autre en fonction des opportunités de coûts ou des envies personnelles. Donc du coup, les pays dépendants du tourisme n'ont plus la capacité d'être résilients à la fois au tourisme et à son impact négatif, mais aussi pour développer une économie qui soit plus durable.
Alors, ce qui est intéressant dans votre rapport, c'est que vous proposez des solutions justement pour mieux planifier, mieux gérer, mieux contrôler cette activité touristique.
Ce qu'on propose, effectivement, c'est à la fois travailler sur des mécanismes de gestion au niveau local du tourisme. Les villes doivent s'impliquer pour comprendre l'impact du tourisme et du touriste sur leur écosystème, sur leur fonctionnement local, mais aussi au niveau global, essayer de dialoguer entre le pays et l'industrie pour trouver des solutions qui passent à la fois par une décarbonisation du transport aérien, faire que les croisiéristes et les croisiérismes soient beaucoup plus propres dans ces émissions d'air, mais aussi travailler pour que la demande, donc les consommateurs, soient plus durables, c'est-à-dire qu'au mieux de voyager plus souvent, on voyage peut-être moins, mais plus longtemps et mieux.
Alors, il y a aussi des outils de planification qui existent, planification spatiale notamment, ou pour justement mieux répartir peut-être les touristes qui viennent dans la zone.
Effectivement, la mer est un espace extrêmement libre et sauvage et qui est vampirisé par les industries de manière générale, et notamment l'industrie du tourisme. Et il faut absolument mettre en place des politiques de gestion des mers comme on l'a fait sur Terre, sur lesquelles on sait qu'il faut préserver des ressources naturelles qui sont précieuses pour le fonctionnement des écosystèmes et de notre société. Donc il faut faire ce même travail-là sur mer, ce qui est beaucoup plus difficile parce qu'on est quand même sur des espaces qui sont peu connus, qui sont difficilement contrôlables, et qui sont partagés par de nombreux utilisateurs. Donc c'est un travail de planification qui doit être mis en place par les pays et par les municipalités.
En regardant cette brochure, je m'y vois déjà. Cocktail au turquoise et plage privée. Un pied hors de l'Airbus, je me sens chez moi. Les yeux sur le paysage rivé. Un gosse m'offre un collier de fleurs. D'autres tendent simplement la main pour un bakchich. Je croise leur regard dans le rétroviseur. Mais je suis déjà loin dans mon taxi. Je ne parle aucun langage. Évite tout contact avec l'autochtone. Rêve de voir la faune locale en cage. Excepté quelques Amazones. Bientôt le soleil tape, il fait trop chaud, trop humide. Et je me rappelle ses recommandations. Trop d'exposition au soleil accentue les rides. Alors je pousse ma climatisation. Je suis ce touriste. Assuré tout risque, je dirais pas terroriste. Simplement égoïste, je suis ce touriste. Assuré tout risque, je dirais pas terroriste. Simplement égoïste.
Tu ne veux pas savoir que derrière ton parasol, fini les transats et que les gens d'ici risquent la tôle en foulant leur propre sol, la plus belle plage de leur petit pays. Tu ne veux pas savoir qu'à quelque part de ta piscine chlorée, l'eau n'est pas potable. Tu ne vois que ce qu'on te montre quelque part, et tout va bien sur tes cartes postales. Tu as assouvi tes vices loin de la paranoïa, pour quelques billets sans te cacher. T'offres mes services et ceux de Nitaya.
Car ici la main d'œuvre est bon marché.
Tu es ce touriste. Assuré touriste, dirais pas terroriste. Simplement égoïste, tu es ce touriste. Assuré touriste, dirais pas terroriste. Simplement égoïste.
Détente que rien ne pourrait gâcher. J'ai bossé pendant 11 mois, alors j'enfile mes Ray-Ban à vision limitée, celle qui efface le tiers-monde du panorama.
Tu te dis que grâce à toi on vit mieux, et la plupart du temps tu n'y penses même pas. Jeune, vieux et parfois vicieux, tu te fous de quel âge on a.
De retour sur Paris, j'organise une soirée diapo, et je raconte un tas d'anecdotes. Là c'est moi et Pedro buvant du lait de coco. Promis, l'année prochaine, on y va entre potes. Je suis ce touriste. Assuré tout risque, je dirais pas terroriste.
Simplement égoïste, tu es ce touriste. Assuré tout risque, je dirais pas terroriste. Simplement égoïste.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous parlons de l'impact du tourisme de masse aujourd'hui dans le monde avec Jérémy Fauss, président de l'ONG Eco Union. Dans votre rapport que vous venez de publier avec l'IDRI sur le tourisme bleu, vous expliquez qu'on peut aussi peut-être se fier aux écolabels.
Oui, tout à fait. On a à notre disposition, en tant que consommateur, des informations de plus en plus précises sur l'impact environnemental de notre mode de transport, mais aussi de notre choix d'hôtel ou de même d'activité touristique. Donc, on recommande fortement de se renseigner sur la mise en place d'un mécanisme de certification environnementale, de bonne gestion des déchets ou de l'énergie et de l'eau, qui feront que notre impact sera plus faible.
Donc ces écolabels, on les trouve sur Internet. Comment on peut les reconnaître ?
Voilà, effectivement, en Europe et en France notamment, de nombreux labels sont disponibles. En général, l'entreprise met en avant ce label-là parce que c'est quand même un outil de bonne gestion.
Voilà, et si vous apprêtez à partir en vacances loin ou près de chez vous et qu'à l'écoute de cette émission, vous ne savez plus où aller, eh ben vous pouvez utiliser une application que j'ai trouvée très maline. Bonjour Brian Corrieri.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous avez créé Fairtrip, F-A-I-R-T-R-I-P, hein, c'est donc cette application. Expliquez-nous sa philosophie.
Alors l'application Fairtrip, c'est un guide de voyage collaboratif qui permet de trouver partout dans le monde des hébergements, des restaurants et des expériences qui ont la spécificité d'être sélectionnés pour leur caractère authentique, c'est-à-dire donc le respect de la culture locale, du patrimoine local, et leur impact social et environnemental positif. Donc pour être référencé sur Fairtrip, chaque adresse doit respecter l'un de nos 5 critères.
Alors comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer cette application ?
Eh bien, il y a quelques années, en 2016, je suis parti faire un tour du monde. J'ai voyagé 10 mois dans beaucoup de pays et je me suis aperçu que le tourisme ne bénéficiait pas aux communautés locales. Et je me suis aperçu en même temps que c'était compliqué aujourd'hui de voyager au plus près des communautés, de s'immerger dans la culture locale et qu'on était, avec les guides et les sites de voyage, toujours envoyés dans des établissements qui étaient occidentalisés, formatés. Et je me suis dit, ben, comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour proposer autre chose? Et je me suis dit que l'application mobile, c'était aujourd'hui le meilleur outil pour pouvoir accéder de façon même hors ligne, déconnectée partout dans le monde à des milliers d'adresses. Et que le meilleur guide aujourd'hui, c'est nous, les voyageurs, qui pouvons découvrir des adresses qui n'existent pas, qui ne sont pas référencées ailleurs sur aucun guide. Et c'est ça, on parlait là du tourisme de masse. L'idée, c'est vraiment de proposer des endroits qu'on ne trouvera pas ailleurs, qui sont un petit peu cachés et qui pourtant sont incroyables. Vraiment rester dans l'authenticité et c'est un petit peu ça le voyage.
Alors aujourd'hui sur votre application on trouve 3000 adresses dans plein de pays du monde et notamment en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples?
Alors en Afrique on trouve des adresses dans plusieurs pays, en Afrique du Sud, au Botswana, au Maroc, mais aussi au Sénégal, au Togo ou encore au Cameroun. Par exemple, au Cameroun, on trouve donc un petit village qui s'appelle le village de Mwanko, dans lequel on trouve des écologes qui sont soutenus par une association locale de Douala, qui s'appelle l'Africam, qui est une association de femmes qui œuvre au développement du tourisme durable dans le sud Cameroun. Et également, on peut trouver des hébergements autour de la réserve de Kampoé, dans le sud Cameroun. Donc voici le genre d'adresse qu'on peut trouver. On peut également découvrir des restaurants locaux un peu partout en Afrique.
Voilà, il y a plein d'adresses. Hein. Je vous invite vraiment à y aller. Et l'objectif de cette application, c'est ce que vous me disiez, c'est redonner le pouvoir aux voyageurs. Parce que c'est aussi ça la clé, hein, Jérémy Foss, c'est qu'il faut essayer de s'émanciper un peu des voyagistes de masse.
Bah effectivement, je crois qu'il faut utiliser les outils comme Fairtrip pour... prendre des bonnes décisions sur lesquelles notre impact est diminué, mais je crois que de manière générale, il faut voyager moins souvent et plus longtemps. Il faut que les destinations qu'on aille visiter, on puisse y passer de nombreux jours, voire semaines, pour découvrir vraiment la vie locale et avoir des échanges riches et éviter, voire éliminer les départs en vacances en week-end à l'autre bout de l'Europe ou parfois même de la planète.
Oui, puis on a un petit peu tendance parfois à acheter des guides de voyage et à aller exactement voir la photo qu'on voyait chez soi. On veut la voir en vrai, alors que finalement, le voyage, c'est aussi se laisser aller au gré du hasard, aller rencontrer les populations locales et faire des expériences individuelles.
Oui, effectivement, je crois que le voyage démarre au moment où on quitte notre espace de vie habituel et même le mode de transport, le train, le bateau, le vélo... peut être une source extraordinaire d'échanges et d'apprentissage. Et donc, je crois qu'il faut transformer notre mentalité pour avoir un impact le plus faible possible au niveau environnemental, mais aussi en même temps partager de façon la plus ouverte possible notre culture et échanger avec les communautés locales.
Et Brian Corrieri, c'est aussi votre philosophie?
Tout à fait, effectivement. Je suis vraiment parti de ce constat. Le voyage, c'est vraiment le moyen de rencontrer d'autres cultures, d'autres personnes, de s'ouvrir l'esprit. Et puis, bien sûr, c'est aussi un vecteur de paix dans le monde, le fait de voyager et d'aller rencontrer l'autre. Je pense que la rencontre, c'est vraiment ce qui est le plus important dans le voyage, ce qui permet de se dépayser puis de s'émanciper.
Voyager pour s'émanciper, ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Vous trouverez le rapport sur le tourisme bleu et le lien vers l'application Fairtrip sur la page internet de l'émission. Tapez C'est pas du vent dans les moteurs de recherche et vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux #CPDV. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.